Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Hein ? Oui.
La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Eric alias Benoît Poulvorde aurait pu y penser lors du tournage des Randonneurs, sorti en 1996. Mais la meilleure façon de gagner de l'argent avec les Randonneurs, c'est sans doute la méthode de l'américain VF Corporation, le roi de l'outdoor. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un groupe aussi discret que ses marques sont connues, un groupe qui se construit depuis plus de 100 ans dans les activités de plein air, autrement dit, l'outdoor.
It's why we're leading the way. Powering movements to inspire each and every one of us to live sustainable and active lifestyles for the betterment of people and our planet. At VF, we are made for change.
Si je vous dis VF Corporation, il y a franchement peu de chances que cela vous parle. Derrière ces quelques lettres se cache pourtant un champion de l'habillement, un groupe qui pèse plus de 12 milliards de chiffres d'affaires. Ses marques sont aussi célèbres, Eastpak, Timberlands, Vans, The North Face ou encore Napa Pigerie. Quelques-unes des nombreuses filiales qui composent ce groupe naît à la toute fin du 19e siècle. Bonjour Nathalie Villard.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste et vous avez enquêté pour les Échos Week-end sur ce groupe qui multiplie les marques dans le domaine du plein air. Vous êtes allé visiter leur siège européen en Suisse. VF Corporation, c'est un groupe très discret.
Plus que discret, sans révéler les coulisses de l'enquête, je peux vous dire que j'ai dû négocier des mois pour avoir accès à leurs équipes. C'est typique de ces groupes en fait, dont les marques sont ultra connues et ils estiment que les marques parlent pour elles-mêmes et ils ne veulent surtout pas dévoiler comment ils en font des succès. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire.
Ils sont installés où ?
La maison mère est à Denver, dans le Colorado, puisque c'est un groupe américain. Et le siège européen est, lui, en Suisse, dans un canton, le Tessin, très connu pour sa clémence fiscale. Eux parlent de stabilité fiscale. Enfin, on a tous compris entre les lignes qu'il y avait un intérêt aussi à ne payer moins d'impôts. Et cette petite commune de Stabio, elle est très surprenante parce qu'on est à une heure au nord de Milan et en même temps, on est vraiment au cœur des Alpes, dans un paysage très bucolique et surprenant.
Vous avez été surpris d'ailleurs en arrivant de l'endroit où ça se trouvait en fait.
Bah complètement, si j'avais pas eu mon GPS, je pense que je me serais cru perdu longtemps à l'avance. C'est au bout d'une espèce de zone industrielle entre un dépôt de tuyaux, une grande usine de bois. Et tout d'un coup, au bout d'un tournant, on arrive sur ce lieu qui pour le coup est très beau, parce que c'est une architecture assez contemporaine de verre et de bois, avec les Alpes en fond d'image, donc le décor change, ceci dit, à l'extérieur, à part un petit logo VF, on ne sait pas où on est.
Mais au printemps, à l'heure du déjeuner, la vue doit être absolument splendide.
Ah, la vue est splendide, et voilà, il y avait quelques food trucks et beaucoup de jeunes salariés en train de déjeuner dehors, avec plutôt un look détente, parce que la plupart portent les marques pour lesquelles ils travaillent. Donc c'est vrai que tout d'un coup, dans cet environnement bucolique, le look des lieux surprend.
Ouais, c'est vrai qu'en même temps, quand on est un groupe d'outdoor, de plein air, se retrouver en plein cœur des Alpes, ça peut paraître plus logique en tout cas que d'être en plein cœur de Paris. VF Corporation, vous disiez que ses employés portaient les marques et c'est vrai que ce groupe, c'est un florilège de marques parmi les plus connus des amateurs de nature, mais aussi de ceux qui s'intéressent à la mode.
Oui, on peut en citer quelques-unes, celles les plus connues. The North Face, Vans, Eastpak, Timberland, Napa Pigerie, voilà, ça c'est pour celles, en tout cas que les consommateurs français connaissent le mieux et portent le plus.
Le groupe a dégagé au 31 mars 2022 sur un an un chiffre d'affaires de près de 12 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des poids lourds du secteur. Mais c'est un groupe qui a beaucoup évolué avec le temps et qui s'est construit à coups d'acquisition.
Oui, c'est très surprenant parce que c'est un groupe très ancien hein, qui naît en Pennsylvanie à la fin du 19e siècle. Et au départ, ils font pas du tout dans la grosse parka, puisqu'ils démarrent dans la lingerie et notamment la soie. Et après la guerre, petit à petit, ils vont en fait abandonner ce business de lingerie et se construire avec des acquisitions très différentes, mais qui, à l'arrivée, vont faire un groupe cohérent. Donc, ils vont d'abord racheter des marques de jeans, Lee et Wrangler, dont ils vont se débarrasser en 2019, parce qu'ils savent vendre et revendre en fait leurs marques à des bons moments. Et ensuite, dans l'ordre ou dans le désordre, ils vont acquérir Timberland, et donc The North Face, Vans, Napa Pigerie. Et ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'à chaque fois, en fait, ils achètent très bien leurs cibles, parce qu'à l'époque, elles ne valent pas grand-chose, mais elles ont tout en commun d'être reconnues dans leur univers. Et en fait, tout l'art et le talent de VF, c'est de faire de ces petites marques, achetées peu cher au moment où ils le font, des géants, chacune dans leur domaine, sans jamais qu'elles perdent leur ADN. C'est ça aussi qui est quand même très surprenant avec ce groupe. C'est-à-dire qu'une marque comme North Face peut grandir 10 fois tout en restant reconnue des montagnards, fidèle à ses origines et en même temps portée dans la rue.
What started in 1899 as a glove and mitten manufacturer is now a major company that owns more than 30 popular brands. The name VF comes from the company's name in 1919, Vanity Fair Mills. But when it acquired Lee Jeans 50 years later, the company became VF Corporation.
VF, hein, comme Vanity Fair Silk Mills, on est loin aujourd'hui des nuisettes en soie des années 1920 que l'on peut admirer dans une vidéo sur l'histoire d'un groupe centenaire. Il y a une autre image marquante dans cette vidéo, c'est une photo qui fleure bon l'Amérique en pleine révolution industrielle. Devant un immeuble, on peut voir 14 hommes posant pour la postérité. Tous sont habillés de la même façon, chapeau, cravate, chemise blanche et redingote noire. On est loin de l'image de la montagne, excepté l'un d'eux d'ailleurs qui a un long imperbe beige. Nous sommes à Reading, en Pennsylvanie. Ce groupe d'investisseurs se lance dans l'industrie textile, la confection de mitaines et de gants en soie et en coton, avec un budget pour l'époque de 11 000 dollars. C'est le début d'une longue histoire pour une entreprise qui pèse en bourse près de 18 milliards de dollars, hein, soit presque autant que Veolia ou la Société Générale.
J'ai jeté mes bras par terre, je dors dans mon jean Wrangler. À l'aise, à l'aise. Quand t'es bien dans tes jeans, t'as pas besoin de vitamines.
Cool, relax, à l'aise, il y a deux acquisitions, Nathalie, qui vont marquer l'histoire du groupe. D'abord, la diversification dans les jeans, Lee en 1969 et Wrangler en 1986. C'est la démocratisation du jean, synonyme de jeunesse et d'émancipation. Et plus tard, en 2000, il y a l'acquisition de North Face pour 25 petits millions de dollars pour un groupe qui en perdait le triple. Ça, c'est vraiment un tournant pour VF.
Ah oui, un tournant énorme, parce qu'à l'époque, donc North Face est né à San Francisco. Hein, c'est un montagnard qu'il a créé à la fin des années 60. Elle va, bon an, mal an, continuer à croître, mais rester quand même dans son cercle très restreint des fans de montagne. Et quand The North Face la rachète, en fait, ils vont réussir à continuer à plaire à la petite communauté de montagnards, tout en faisant une marque grand public portée dans la rue.
VF Corporation réalise environ 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, vous l'avez dit. Il est installé sur un marché tendance, un marché qui marche, celui de l'outdoor.
En fait, ils ont la chance de pouvoir être assis sur deux marchés. Il y a l'outdoor, j'allais dire pur et dur, celui qu'on pratique dans la nature. Hein, donc le trek, l'escalade, la course à pied, la montagne bien sûr, le ski. Et puis l'outdoor qu'on pratique de plus en plus en ville. Et ça, c'est vrai que là-dessus, le confinement et le besoin d'abandonner la voiture, les transports en commun font que maintenant, de plus en plus d'urbains se promènent ou vont au travail en vélo ou à pied. Et pour cela, bah, il leur faut quand même des équipements techniques. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'arriver au boulot trempé, transpirant. Mais en même temps, il faut qu'on ait le bon look. Qu'on n'ait pas le look ringard juste de l'anorak bête et méchant. Et c'est là-dessus, en fait, que les marques de VF ont su très bien surfer.
En s'adressant aussi à des gens qui ont un bon pouvoir d'achat, notamment dans les villes, c'est un marché quand même très compétitif.
Ah, très compétitif. Ils ont face à eux, évidemment, les Nike, Adidas, qui eux vont aussi de plus en plus dans l'outdoor. Ils ont face à eux aussi, en France, un Décathlon, dont toutes les marques distributeurs sont évidemment sur ce créneau, puisqu'on est dans une pratique de sport à la fois...
Avec une logique très technique aussi, Décathlon.
Avec aussi une logique et beaucoup d'innovation. Et ensuite, ils sont face à des acteurs, j'allais dire individuellement, qui vont sur la montagne, typiquement la Fuma ou Salomon. Voilà. Donc, ils sont face à une foultitude d'acteurs, plus ou moins gros, plus ou moins spécialisés.
On verra d'ailleurs comment ils arrivent aussi à s'en sortir et pourquoi avoir plusieurs marques, c'est intéressant. On voit quand même que le groupe a souffert en bourse. Hein. En quelques mois, sa capitalisation est quand même passée de 31 milliards de dollars en 2021 à près de 18 milliards aujourd'hui. Alors c'est vrai que globalement, les marchés ont plutôt souffert hein, depuis quelques mois et le groupe n'y a pas échappé. Vous vous êtes rendu à Stabio, donc dans le Tessin suisse. Le groupe ne fabrique rien sur place, mais c'est là qu'il conçoit les collections de marques. À quoi ça ressemble à l'intérieur ?
J'allais dire un gros bazar. C'est-à-dire, c'est quand même très surprenant. Donc, c'est un bâtiment qui abrite les départements création de Timberland, Vans et The North Face, notamment. Donc, chaque marque a son univers, qui est tout de suite très reconnaissable, hein, parce qu'on reconnaît des... Voilà, chez Vans, par exemple, quand on arrive au département Vans, il y a des murs entiers de baskets, des planches de skate partout. C'est-à-dire, on sent que les créatifs ont besoin d'être dans l'environnement de la marque, voilà, pour bien imaginer les nouveaux produits. Et pareil, quand on rentre dans le bureau du directeur de la création de The North Face, il est entouré de doudounes. Et moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est qu'il est entouré d'anciens modèles. Parce qu'en fait, chaque marque a une médiathèque, une bibliothèque de ses précédents modèles qui est considérable. C'est des milliers de pièces qui sont là sur place, hein, stockées. Et en fait, le grand jeu des différents directeurs de création, mais notamment celui de The North Face, c'est d'aller revisiter des anciens modèles avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles couleurs. Mais on sent que, et ça, c'est vraiment une des stratégies clés du groupe, ils veulent rester fidèles à ce qui a fait le succès de la marque dès le début. Donc, il ne s'agit pas d'aller sur des dessins ou des designs ou des couleurs qui ne feraient pas partie de l'ADN de ce qu'ils sont.
Il y a 1000 pièces hein, chez North Face, c'est ce qu'il vous a raconté. 56 ans de création. Il parle de trésors, effectivement. Darren Shooter, hein, qui est le designer en chef de The North Face. Il vous a parlé, par exemple, de la doudoune. Alors, je ne sais pas du tout si je prononce bien Noopse.
Eux disent Noopse, mais
Noopse, d'accord.
On va dire que c'est Noopse. Donc, c'est le nom d'un des sommets de l'Himalaya. Hein, donc, ça dit tout de suite. Et elle s'est appelée comme ça dès sa création, il y a plus de 20 ans. Et en fait, le caractéristique de cette doudoune, elle a été adoptée évidemment par les montagnards parce qu'à l'époque, elle était déjà une des doudounes les plus chaudes du marché. Mais grande surprise, très vite, on est à la fin des années 90, elle va être adoptée par tous les gamins des rues du Bronx, d'Harlem, mais aussi des villes comme Chicago, où les hivers sont extrêmement rigoureux. Et ces gamins qui vivent dans des petits appartements, grandes baraques HLM, en fait, passent leur vie dehors et ont besoin d'être tout simplement bien équipés. Et à partir de là, vu que ces gamins qui sont dehors font eux-mêmes de la musique, c'est la naissance du rap. Donc très vite, cette doudoune Noopse va être adoptée par les rappeurs, mais aussi les skateurs. Et ça va devenir un phénomène urbain, alors qu'au départ, c'est vraiment une doudoune conçue pour les montagnards.
Bien plus qu'une veste. C'est un défi. Une victoire. Une évolution.
La convergence du montagnard et du rappeur, c'est quelque chose que l'on comprend bien en lisant votre article dans les Échos Week-end, Nathalie. Cette capacité du groupe à créer le désir sans renoncer à son ADN.
Oui, parce que la difficulté, en fait, pour des marques qui se veulent à la fois extrêmement solides, robustes, et pour des experts, c'est d'arriver justement à se renouveler et surtout à inciter, en fait, les consommateurs à en racheter d'autres. Parce que si vous avez une doudoune qui est faite pour durer 30 ans, vous n'avez pas vraiment de raison d'en racheter une autre. Et donc, en fait, là-dessus, ils ont plusieurs leviers. Un, notamment sur la Noopse, ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont révélé que j'ignorais complètement. Ils jouent la pénurie. C'est-à-dire qu'ils vont regarder magasin par magasin. Alors, ils ne parlent pas de quota de vente, mais on n'en est quand même pas loin. Et ils vont gérer les flux, en fait. Pour que cette doudoune reste quand même quelque chose qu'on désire, qu'on est capable d'attendre plusieurs mois avant d'en avoir, dans sa taille, dans sa couleur. c'est des stratégiques, des marques de luxe comme Hermès font très bien avec certains de leurs hit bags. Hein. Eh bien, The North Face le fait pour le modèle Nupcé, par exemple.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est cette capacité à réveiller les marques, finalement, qu'ils rachètent. Vous parliez de produits un peu de niche. Ils arrivent à en faire véritablement des marques qui comptent dans le paysage.
Oui, alors là, je pourrais quasiment toutes les citer, hein, mais on peut citer Vans, par exemple, dont Vans, quand ils rachètent Vans, c'est vraiment une marque très peu connue, si ce n'est des skateboarders de Los Angeles. Hein, on est vraiment dans la marque de la way of life californienne portée par les jeunes qui font du skate. Et pourquoi les skateboarders l'adoptent? C'est parce qu'elle a été créée par des deux frères skateboarders et qui ont conçu cette fameuse semelle en fait antidérapante qui accroche bien sur le skate et qui permet de, voilà, de skater sans se tordre la cheville. Et à partir de là, un petit peu, j'allais dire, comme la doudou de Noopse, vont se greffer. Alors, le skateboard va devenir un sport urbain ultra populaire, va être adopté là aussi par des créatifs de musique. Et le génie, j'allais dire, de Vans, c'est pour justement faire appel à ces consommateurs créatifs, c'est de la rendre customisable quasi à l'infini. Donc, quand vous achetez encore aujourd'hui, vous allez en ligne, Vans, vous pouvez choisir la couleur des œillets, la couleur de l'élastique, la couleur de la couture, la couleur de la semelle, la couleur du tissu à l'infini. Et donc, vous pouvez avoir votre... Certes, vous portez une paire de Vans, mais c'est votre paire de Vans. Et ça, c'est vrai qu'auprès des milieux graffiti, tout le street art, etc., ça va jouer énormément.
Le groupe a aussi une force, c'est finalement cette mise en commun logistique et opérationnelle de toutes les marques qu'il fédère.
Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai mis un petit peu de temps à appréhender. Et en fait, c'est... Voilà, les analystes qui connaissent bien le secteur disent que chaque marque existe en tant que telle à sa propre stratégie, à la fois de création et de marketing, mais dans les coulisses, en back-office, elles bénéficient toutes d'un espèce de socle commun qui, pour elles, vont s'occuper de la production, de l'achat des matières premières, de la logistique de transport entre les lieux de production et les lieux de distribution, et vont permettre du coup à ces marques de ne se concentrer que sur la création. Parce que j'allais dire, tout le reste est fait en amont et mutualisé pour chacune d'elles. Et en fait, aucune de ces marques séparément n'aurait la même force de frappe. Et je ne parle pas évidemment de la finance, des ressources humaines, des recrutements, enfin ça va de soi, du marketing. Donc elles ont plein d'outils en commun.
Supreme va créer des lieux de vente qui s'adressent spécialement aux skateurs. Et comment la marque va s'y prendre? En créant justement une boutique dans laquelle ils sont à l'aise. Et pour ça, en fait, la marque va faire quelque chose d'inédit, c'est que tous les produits de la boutique seront contre les murs, laissant ainsi le milieu vide et le sol en lui-même est soit en parquet, soit en bitume, ça dépend de la boutique, de manière à ce que les skateurs puissent circuler dans la boutique et ainsi, ils n'ont pas besoin de descendre de leur planche de skate pour rentrer dans la boutique.
Cette dernière acquisition est aussi symbolique, c'est la marque Supreme, une marque new-yorkaise ultra branchée, c'est la jungle urbaine, mais tout a démarré par la vente d'accessoires de skate, comme le raconte ici le site iconique. En 25 ans, sa valeur va passer de 12 000 dollars à plus de 2 milliards. C'est le prix payé par VF. Alors, la stratégie de son fondateur est fondée sur la frustration. Si je veux vendre 600 pièces, j'en fabrique 400. C'est ce qu'explique James Gebbia. Une stratégie marketing payante différente de celle d'une autre marque forte du groupe, Eastpak, que beaucoup d'adolescents, mais aussi de cadres dynamiques ont dans le dos. Nathalie, on est un peu moins dans le monde de l'habillement et de la mode.
Tout à fait. Et en même temps, l'histoire d'Eastpak est un peu similaire à toutes les autres. C'est-à-dire que Eastpak, au départ, dans les années 60, a été conçu pour équiper l'armée américaine. Donc, en fait, Eastpak va inventer le premier sac à dos, petit et léger, mais ultra robuste. Et donc, très vite, dans les années 70, pour ses qualités techniques, on en revient toujours à la même histoire, Eastpak va être adopté par tous les étudiants des campus américains qui, enfin, ont trouvé un sac qui peut porter, parce qu'à l'époque, on porte beaucoup de bouquins, des kilos de livres dans le dos. Et des campus universitaires, ça va évidemment être adopté par aussi les collégiens, les lycéens, etc. Et aujourd'hui, par les cadres ou n'importe quel salarié qui a besoin de transporter son ordi de manière solide. Et par contre, là aussi, Eastpak a su innover en son temps. C'est-à-dire que si le sac à dos, celui que tout le monde connaît, est resté le même, la seule chose qui change chaque année, ce sont les couleurs dans lesquelles on peut décliner ce sac à dos. Ils vont être, en revanche, les premiers à inventer ces bagages que maintenant tout le monde connaît, en fait, c'est-à-dire de décliner le sac à dos en bagage à roulettes. Et donc, ISPAC elle, a été la première marque à décliner ce qu'on appelle des bagages souples, qui vont pouvoir aller sous les lits, sous les fauteuils de train, sur des roulettes qui sont censées faire moins de bruit que les bagages concurrents.
Mais c'est vrai, vous parliez de qualité technique, et c'est vrai que des groupes comme North Face, Timberland sont aussi des marques réputées pour ces qualités. Ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe, en fait.
Totalement. D'ailleurs, j'ai discuté longuement avec le directeur et le petit-fils du fondateur du Vieux Campeur, que les Parisiens connaissent bien quand ils sont fous de montagne. Et il me disait, moi, il y a quelques années, je leur ai dit, à North Face, je leur ai dit, si vous arrêtez d'être technique, moi, j'arrête de vous distribuer. Votre crédibilité, elle est avant tout celle de mes clients, c'est-à-dire qui recherchent des produits techniques qui correspondent à leurs besoins.
Ça veut dire qu'on n'est pas dans la mode pure. Hein.
Alors, eux détestent ce mot. Hein. Vous disent qu'ils ne sont absolument pas dans la mode. Ils font des produits techniques pour une cible de praticiens plus ou moins sportifs. Et quelque part, ils disent, et tant mieux si les urbains nous adoptent. Mais ce n'est pas pour eux qu'on crée.
Justement, le groupe s'appuie sur des sportifs de haut niveau, là aussi, pour concevoir les produits.
Oui, c'est très important, notamment pour The North Face, hein, qui équipe beaucoup de montagnards. J'ai rencontré longuement l'un de ces sportifs, qui est un des plus anciens sponsorisés par la marque, hein, qui est un Français, Xavier Delerue, grand skieur de l'extrême, qui a raflé un nombre de titres impressionnants. Et donc lui, d'une part, il teste en permanence leur prototype. Donc il me racontait, c'est comme ça que je les ai amenés à élargir un peu la capuche de leur doudoune pour bien que ça coiffe le casque. Plein de petites poches annexes, toujours sur leur doudoune pour pouvoir mettre différents instruments. Et puis lui, surtout, fait partie de ces heureux élus qui sont en fait sponsorisés par la marque pour monter carrément des expéditions extrême. Donc, il en a déjà fait une en 2013. Il repart là, à la fin de l'année dans l'Antarctique. On parle d'un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros où il va tester des équipements.
Fin 2023, hein, je crois qu'il part.
Fin 2023, excusez-moi. Oui, à la fin dans 18 mois. Donc là, il est en plein préparatif. Et donc, il va emmener dans cette expédition à la fois des équipements qui vont être amenés à être évidemment mise en vente, mais surtout malin, avec toute une équipe de vidéastes, de photographes, qui vont le photographier en train de descendre ces pistes vertigineuses qui plongent carrément dans l'eau. Hein. C'est très, très impressionnant comme paysage et qui vont servir évidemment de support publicitaire et dans les magasins.
Alors, c'est une publicité qui date de 2008. On y voit un randonneur poursuivi par des abeilles, par un arbre, par des aigles tombés, chutés dans la rivière. Et arrive la sentence, portez nos nouvelles chaussures en matériaux recyclés, sinon la nature pourrait vous le faire payer. Les marques du groupe sont des odes à la nature. Ça les rend plus sensibles aux enjeux environnementaux.
Alors, on va dire que ça n'a pas toujours été le cas, hein, et que là, quelque part, ils n'ont plus le choix. Mais c'est un virage qu'ils ont clairement pris. Maintenant, il y a 3 ou 4 ans. Alors, on sent qu'ils testent, en fait, d'abord, dans des nouveaux matériaux qui sont développés par les équipes R&D à Denver, évidemment, à partir de plastique recyclable. Mais ils sont, par exemple, les premiers, et ça, ils ont fait porter cette innovation par la marque Napa Pigerie. Donc, Napa Pigerie, c'est une marque d'outdoor à l'origine italienne, mais qui a clairement adopté ce virage écolo avant les autres. Et donc, par exemple, ils vont mettre en vente un premier anorak 100% recyclable. Donc, au bout de 2 ans, vous pourrez reporter cet anorak en magasin. Et pourquoi 100% recyclable? Parce qu'à partir d'un monoproduit, lui-même issu de filets de pêche, et en échange de... Donc, ils reprennent cet anorak qui va repartir, en fait, dans le cycle de production. Et en échange, vous avez un coupon d'achat pour racheter un nouvel article. Et de même, Timberland, la Yellow Boot, par exemple, qui n'a pas changé de look... Extérieurement, elle a changé considérablement de matériaux. Et par exemple, elle est maintenant déclinée avec une semelle qui, elle, va être conçue avec du caoutchouc naturel et là aussi des matériaux recyclés. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ils n'en font pas trop pour l'instant communication. Ça n'est pas devenu un outil marketing. Et justement, ils se posent la question de savoir comment raconter en fait à leurs consommateurs tous les efforts qu'ils font pour être plus écolo-compatibles.
Merci Nathalie Villard, journaliste. Son reportage est à retrouver dans les pages des Échos Week-end et sur leséchos.fr. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.